l'air en allumant votre radio. C'est quand Michael Jackson était encore noir. The Cure.
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Les Canu Info,
Canu Info
du mercredi. Il est 19h pile, vous êtes sur les ondes de Radio Canu et on est mercredi et ce sont les infos. Alors de quoi on va parler ce soir?
Eh bien ce soir, après une petite brève d'entrée, on parlera d'obligation vaccinale pour les soignantes et les soignants.
Voilà, ensuite on parlera du réchauffement climatique qui pourrait forcer 216 millions de personnes à migrer d'ici 2050.
Ah pardon, je suis en train de faire une...
Voilà, donc on va s'en passer à l'antenne.
Israël, vraie fausse générosité envers Gaza et abrogation ratée d'une loi anti-arabe.
Ensuite, on parlera du Beauvau de la sécurité, on ne peut pas s'en passer, hein, donc du bilan qu'en fait Macron.
Et puis on parlera de la ZAD de Sainte-Foy, s'il y en a qui ne sont pas encore au courant, vous allez voir, il y a de l'aventure aux portes de chez vous.
Exactement.
Canu Info du mercredi.
Alors après, par exemple, la cariolisine, un médicament qui était indiqué dans la maladie de Hodgkin, que plus aucun labo ne produit depuis 2014, cet abandon de la production de certains médicaments peu rentables se poursuit parce que ils sont complexes et coûteux à produire, ils ne concernent que peu de maladies et surtout ils ne font pas assez de bénéfices. Alors, les pénuries de vaccins contre la tuberculose, le BCG, utilisé aussi contre le cancer de la vessie, s'aggrave. Donc, cette pénurie s'aggrave. Puisqu'en 2019, Sanofi, son principal producteur, en a arrêté la fabrication en raison de difficultés de production. Difficultés de production, c'était un peu un mot valise. Ces difficultés de production, c'est même pas parce qu'il y avait des antivax enchaînés volontairement à la porte du labo. Non, ils ont trouvé d'autres choses. En France, en fait, du coup, des centaines de patients et de patientes ne sont plus correctement traités et sont obligés de subir une ablation de la vessie pour le cancer de la vessie, un traitement qui est donc très invalidant. Alors que Sanofi ait du mal à développer sa propre recette d'un vaccin contre le Covid, on peut l'entendre et le comprendre que Sanofi opère une vague de licenciements en juin 2020, justement au moment où il fallait tout donner pour élaborer et produire un vaccin. C'était déjà un peu louche, mais alors qu'un laboratoire qui n'est pas en reste pour se gaver sur le dos d'une crise sanitaire invoque les difficultés de production pour un vaccin élaboré il y a plus d'un siècle, ça c'est assez surréaliste. Alors surtout qu'en continuant d'avancer ses pions sur l'échiquier capitaliste, en parallèle de ça, Sanofi rachète pour 1,6 milliard d'euros le laboratoire américain Cadmon. Alors en guise de difficulté de production, c'est en fait la marge de bénéfice qui est de l'ordre de 7 à 10% sur ce médicament qui est jugé insuffisante. Donc Sanofi, qui se donne pour devise d'améliorer la vie, ne pense certainement pas à celle des patients et des patientes du cancer de la vessie.
Canu Info.
Et voilà, c'est aujourd'hui le début de l'obligation vaccinale pour les soignantes et les soignants. Un article que j'ai trouvé sur le site Rapport de Force fait un petit bilan et cet article nous explique qu'un peu plus de 88% des soignantes et soignants ont déjà reçu au moins une dose, mais ça ne suffit pas pour être entièrement vaccinés. Et ça, c'est 88%, c'est chez les soignantes et soignants qui travaillent dans les hôpitaux et les EHPAD. Ceux et celles qui sont en dehors, les libéraux, plutôt 94% de vaccinés. Et quand même, c'est un peu intéressant de capter ce truc que les gens qui travaillent à l'hôpital, c'est-à-dire vraiment les gens qui ont les pires jobs et qui sont les plus, à la fois les plus exploités, qui ont des horaires les plus incroyables, qui sont aussi les plus méprisés, qui s'en prennent le plus plein la gueule depuis très longtemps, mais en particulier depuis la crise du Covid, eh ben c'est chez ces gens-là qu'on trouve le plus de personnes qui sont rétives à cette histoire de vaccination. Et ça vaut peut-être quand même le coup de réfléchir deux minutes à comment et pourquoi. Enfin, c'est-à-dire vraiment des gens qui peuvent, mais on va y revenir, mais qui peuvent plus jamais avoir confiance dans une parole gouvernementale, même quand, par hasard, la parole gouvernementale est pas entièrement débile, comme « allez vous faire vacciner ». Donc là, à partir d'aujourd'hui, normalement, les personnes non vaccinées qui bossent à l'hosto devront poser des congés. Et puis, si au terme de leur congé, elles ne sont toujours pas vaccinées, elles n'ont toujours pas le schéma complet du vaccinal, et bien à ce moment-là, elles seront suspendues sans versement de salaire. Mais la suspension des non vaccinés, elle ne va pas être embêtante que pour les personnes qui seront suspendues, puisque l'hôpital public, qui a déjà fermé 1800 lits d'hôpitaux dans les 18 derniers mois, c'est-à-dire depuis le début de la crise du Covid, 1800 lits, cet hôpital public souffre d'un déficit chronique de soignants dans certains services et il risque d'avoir du mal à surmonter encore une baisse de ses effectifs. Et là, on écoute Christian. Enfin, on écoute. Je vais vous lire plutôt ce qu'a déclaré Christian Prudhomme, qui est le porte-parole à la fois de l'Association des médecins urgentistes de France et qui est aussi membre de la commission exécutive de la CGT Santé Action Sociale, et qui résume la situation comme ça. Pour nous, dit-il, c'est clair, suspendre des soignants non vaccinés est plus dangereux que de les laisser continuer à exercer le métier. C'est-à-dire que lui, il est pro-vaccin, mais l'hôpital public a plus besoin de soignants, même non vaccinés, que besoin de absolument que les gens soient vaccinés, quoi. Car si les suspensions entraînent des fermetures de lits et donc des pertes de chance pour nos patients, ça sera une catastrophe pour l'hôpital public. Ah ouais ? Quelques personnes en moins suffisent à faire fermer un service, et c'est pour cela que nous pensons qu'aucun soignant ne doit manquer à partir du 15 septembre. De fait, les services sont tellement à flux tendu que quelques trous dans les effectifs suffisent des fois à les faire fermer. Et il nous explique aussi qu'au centre hospitalier de Sète, par exemple, où il y a 23 non vaccinés sur 1500 personnes qui travaillent, c'est-à-dire rien, ça suffit pour faire fermer une unité de soins de suite. Alors, les soins de suite, c'est des unités où on garde les patients qui sont bien abîmés, soit physiquement, soit psychologiquement, pour leur donner le temps de se réadapter avant de retourner dehors. Et autant dire que, vu l'état de l'hôpital public, si on préfère les garder pour leur donner le temps de se réadapter, c'est qu'ils sont vraiment pas en mesure de sortir. Bon, bah voilà, à 7, on a fermé une de ces unités pour 23 personnes non vaccinées, quoi. En Ariège, c'est une maternité qui risque de fermer parce qu'il n'y aura plus assez de sages-femmes. Aux HCL, il y a 90% des 24 000 salariés qui étaient vaccinés le 8 septembre. Là, les syndicats Sud et FO mènent une contestation contre l'obligation vaccinale depuis le mois de juillet, depuis qu'elle a été annoncée. Et à des moments, il y a des manifs. Bon, alors, dans le cortège qui a eu lundi 9 septembre, c'est-à-dire lundi avant-dernier, c'était un tout petit cortège, hein, y avait une cinquantaine de personnes. Mais là, sur la cinquantaine de personnes, on entendait des gens qui ont peur du vaccin, mais on entendait aussi et surtout des gens qui juste peuvent plus jamais avoir confiance dans ce que dit qui que ce soit du gouvernement. La vaccination n'est pas le problème de l'hôpital public. Le problème, ce sont les lits. Alors il faut quand même que je situe. C'est Louisa Nouari, qui est la secrétaire de la section force ouvrière de l'hôpital Édouard Herriot, qui disait ça pendant cette manif. Donc la vaccination, c'est pas ça le problème de l'hôpital public. Le problème, c'est les lits d'hôpitaux qui ne cessent de fermer et la casse de notre système de santé. Oui, certains soignants ont peur de se faire vacciner et veulent avoir plus de recul sur le vaccin. Oui, ils détestent qu'on les stigmatise et qu'on leur force la main de cette façon, surtout après leur avoir demandé de faire des sacrifices pendant la crise sanitaire. à Nîmes. À Nîmes, un syndicaliste de Sud Santé Sociaux explique que l'opposition à l'obligation vaccinale est bien présente dans les rangs des soignants. Et que pour lui, elle a de nombreuses origines. Et c'est d'un côté la colère face à la gestion du début de l'épidémie, le refus de la culpabilisation, mais aussi bien sûr la peur des vaccins, ou à la marge, pour certains, l'opposition totale aux vaccins. Mais quand même, il y a vraiment ce truc qui ressort de toutes les personnes interviewées dans cet article. Au départ, en fait, c'est un truc d'en avoir marre de se faire piétiner par le gouvernement, quoi, par les ministres de la Santé, et les promesses non tenues et tout ça.
Il y avait eu une interview il y a quelques temps sur je sais plus quel média de quelqu'un qui a analysé ce truc-là, notamment avec la défiance envers la hiérarchie de l'hôpital, où c'est un lieu où c'est hyper conflictuel et où ce refus-là pouvait aussi s'expliquer par le climat à cet endroit-là, quoi.
Mais c'est hyper conflictuel parce que la situation dans les hôpitaux est juste hyper tendue tout le temps. Au milieu de ce que je suis en train de faire, j'ai qu'à donner un petit conseil culturel. N'hésitez pas à regarder la série Hippocrate, qui montre hyper bien ce truc de situation méga tendue tout le temps et de voir comment les gens ils arrivent à bosser, quoi. Qui est une série qui est pensée pour être une série réaliste et réalisée par un toubib.
Puis ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que là où il pourrait y avoir 2-3 personnes mises au placard à la marge dans un sous-service où ils font que des dossiers et ils reçoivent pas de patients, en fait ça pose un énorme problème parce que l'hôpital est complètement désorganisé pour quelques personnes qui peuvent pas venir travailler.
Bah oui, c'est ça. Et en fait c'est ça, c'est parce que, ouais, ça, parce que tout est tellement déjà tendu, quoi.
Ce qui explique notamment pourquoi à l'époque où il y avait très peu de protection face au virus, on disait aux soignants et aux soignantes de venir bosser malgré le fait qu'ils étaient contaminés.
C'est ça, il y a eu des moments où si les soignantes étaient positives, avaient un test positif, mais n'étaient pas symptomatiques, on leur disait d'aller bosser quand même. Ouais. Bon là, du coup, comme les gens sont très énervés dans les hôpitaux, pour donner un débouché politique à cette colère, une mobilisation nationale s'est tenue hier. Du coup, c'était à la fois contre l'obligation vaccinale, mais aussi pour l'ouverture de nouveaux lits et l'arrêt de la fermeture de ceux qui existent, quoi. Alors, notamment, c'est la CGT qui a lancé ça. Et en France, elle a pris des formes différentes en fonction des villes et des appels syndicaux. Et elle a, nous dit l'article, souvent été prise en tenaille entre, d'un côté, la volonté de rassembler, mais d'un autre côté, comme dans les syndicats, les gens sont pas les gens ont une formation politique, une réflexion, ils sont globalement pas complètement cons, et du coup ils sont globalement pas complètement anti-vax, quoi. Et du coup, leur problème, c'était d'un côté de rassembler, mais d'un autre côté, d'éviter de se faire rejoindre par ce que l'article appelle la frange la plus droitière de l'opposition au pass sanitaire, et par carrément des manifestants anti-vaccins. C'était vraiment pas le but. Dans l'Hérault, il n'y a pas eu d'appel en dehors des anti-vax pour la manif d'hier. Ils ont déjà fait un rassemblement devant le CHU il y a 2 ou 3 semaines, qui a réuni une vingtaine de personnes, dont les 3/4 qui étaient extérieurs au service de l'hôpital. À Béziers, les syndicats ont été débordés par ces mouvements lors du rassemblement en août, et ça leur a pas donné envie d'en faire d'autres. Ça, c'est ce que nous explique un syndicaliste de par là-bas, du sud-ouest. À Paris, de nombreux syndicats et collectifs se sont réunis devant le ministère de la Santé. Y compris dans nos syndicats, des camarades expriment des doutes par rapport au vaccin. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas les exclure pour ça. Alors, on leur demande de pas apporter le badge CGT quand ils se rendent à des manifestations anti-vax. Ça, c'est ce que nous dit le Christophe Prudhomme qu'on avait au départ, là, qui était le toubib, qui était aussi porte-parole de la CGT. Comme ces manifestations excèdent rarement quelques centaines de personnes, même dans les villes les plus grandes, vu que ça concerne que les gens qui bossent à l'hôpital. Dans les gens qui bossent à l'hôpital, quand même essentiellement ceux qui veulent pas se faire vacciner, ça fait effectivement tout de suite pas tant de gens que ça. Et en fait, il se passe aussi que les directions d'hôpital, en tout cas, les gens dans les manifs disent ça, font les horaires en fonction de manière à empêcher les gens qui risqueraient le plus d'aller aux manifs, que en fait, au moment des manifs, les gens en question sont en train de bosser. Donc ça fait qu'il y a effectivement relativement peu de monde dans ces manifs. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que les configurations locales varient selon qui sont les personnalités locales, comment les appels sont formulés, etc. à Lyon, alors que la CGT de l'hôpital Édouard Herriot n'avait pas appelé à rejoindre la manifestation de Sud et FO le 9 septembre, parce qu'elle ne la trouvait pas assez claire sur la question de la vaccination. C'est-à-dire que la CGT, elle est pro-vaccin, et là, elle trouvait que l'appel de Sud et FO n'était pas suffisant. Pour le coup, quand même, les trois organisations ont réussi à manifester ensemble hier. À Nîmes, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Sud Santé Sociaux s'est positionné publiquement pour dire que les manifestations anti-pass du samedi ne sont pas des manifs de notre camp social. C'est-à-dire, bon, pour eux, clairement, et en tout cas dans leur contexte local, les anti-pass, c'est des gens de droite. À cet endroit, la CGT n'a pas manifesté hier, alors que c'est Sud et FO qui ont appelé à un rassemblement devant l'ARS. Voilà, donc selon les endroits et les enjeux, et les centrales syndicales. Quoi.
Ça devient technique, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc l'article termine en disant que, alors que l'obligation vaccinale prend effet, donc aujourd'hui, difficile d'imaginer quelle pourra être la suite de cette mobilisation dans les hôpitaux. Et donc Christophe Prudhomme, toujours le gars de la CGT, lui, il menace un peu en disant: si on observe des pertes de chance, mais des pertes de chance pour les patients, dû à la suspension des soignants après le 15 septembre, la bataille pourrait bien continuer en justice. Voilà. Alors, moi, je voulais rajouter mon petit commentaire à moi, hein, mais pour dire qu'on pourrait penser que l'obligation vaccinale pour les personnels des hôpitaux, ça, d'un côté, c'est sûr, c'est pas dépourvu de sens. C'est pas débile de se dire que quand on va à l'hôpital et qu'on est déjà malade, c'est pas la peine de rechoper en plus une autre maladie potentiellement pas mal grave quand même. Mais on parle quand même ici de professions qui s'en sont pris plein la gueule déjà depuis longtemps avant le Covid, qui s'en sont pris plein la gueule depuis le début du Covid. On parle de gens dont les conditions de travail et de salaire sont telles qu'en réalité plus personne ne veut aller bosser à l'hôpital. On parle de diminution de lits et de diminution de personnel qui ont tranquillement continué depuis le début de la crise du Covid. Alors, plutôt que de pousser un peu plus vers la sortie les quelques personnes qui bossent encore à l'hôpital, est-ce que la priorité serait pas plutôt de créer des places, créer des postes, augmenter sérieusement les salaires des soignantes et des soignants, et en particulier des soignantes et soignants qui sont en bas de l'échelle? Voilà, si on pouvait encore penser que être infirmière, brancardier ou aide-soignante à l'hôpital, ça pouvait faire rêver qui que ce soit, alors oui, à ce moment-là, ça serait peut-être bien raisonnable d'exiger que les gens soient vaccinés.
Radio Canu.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors, ce n'est pas un groupe d'écolos gauchistes qui refuse de se laver et qui refuse également une petite piqûre, mais c'est bien la Banque mondiale qui, dans un rapport, estime à 216 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Et c'est un rapport qui a été détaillé sur le site Info Migrants, là où j'ai largement pompé mes informations. Alors, les continents les plus touchés sont l'Afrique et l'Asie, à cause, entre autres, de la montée des eaux. Alors, pour l'année 2020, il y a environ 23 millions de personnes qui ont été contraintes de se déplacer en raison de phénomènes météorologiques extrêmes, comme les invasions de criquets dans les champs d'Afrique de l'Est et les inondations du Sahel. On en a parlé sur cette antenne. En 2018, c'était quelque 16,1 millions de personnes forcées à l'exil, en grande partie aux Philippines, en Chine et en Inde, ces pays ayant été touchés par des typhons et des cyclones d'une importante virulence. Mais c'est aussi dans la Corne de l'Afrique et ou aux États-Unis où, suite à une très grande sécheresse, des incendies particulièrement meurtriers ont eu lieu, à titre de comparaison. D'après le Norwegian Refugee Council, hein, qui veut dire un peu le conseil des réfugiés norvégiens, chaque année, ces chiffres sont supérieurs aux déplacements liés aux violences et aux conflits. Bon, alors, au rythme où vont les choses, dans peu de temps, il sera quand même un peu compliqué, hein, de distinguer les deux, car entre une personne qui émigre pour des raisons climatiques ou une autre suite à un conflit lui-même provoqué par des catastrophes climatiques répétées, la distinction risque d'être ténue, et il ne faudrait pas non plus que le bon exilé climatique remplace le bon exilé politique qui avait déjà remplacé le bon exilé tout court. Dans le rapport de la Banque mondiale, si les... Alors ça, c'était pas la Banque mondiale qui disait qu'il fallait éviter ce genre de distinction, vous l'aurez compris. En tout cas, dans son rapport, la Banque mondiale, qui n'insiste pas là-dessus, en tout cas, me montre que les effets du changement climatique sur les mouvements de population qui sont déjà visibles actuellement, en tout cas, le rapport table sur 2030 pour une intensification du processus. L'Afrique serait la plus concernée. Pour la partie subsaharienne, d'après les projections les plus pessimistes, c'est 86 millions d'exilés climatiques d'ici 2050. Et cela s'explique par la grande vulnérabilité des zones arides et côtières. Les côtes d'Afrique du Nord sont aussi particulièrement concernées, car la raréfaction de l'eau à l'intérieur des terres pourrait pousser les populations à se rapprocher des côtes, mais ces zones sont déjà très peuplées et aussi très vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. Le Caire, Alger, Tunis, Tripoli, Casablanca, Rabat, Tanger sont des lieux où l'eau est assez disponible et de bonne qualité, mais ce sont des endroits qui sont déjà très peuplés et qui risquent de devenir des points de chute pour les personnes fuyant la raréfaction de l'eau, eau qui risque de monter dans ces endroits. Bref, vous voyez un peu la panade dans laquelle on se trouve. L'Asie, de son côté, va connaître le même genre de phénomène, où la région de l'Est et Pacifique ainsi que l'Asie du Sud totaliserait à elle deux 90 millions de réfugiés d'ici 2050. Par exemple, dans la région du Bas Mekong, je cite le rapport, l'élévation du niveau de la mer qui met en péril les principaux moyens de subsistance, notamment la production de riz, l'aquaculture et la pêche. Cela devrait créer des foyers d'émigration climatique dans certaines plaines côtières densément peuplées, comme le delta du Mekong au Vietnam. Au Moyen-Orient, alors là, autre cause, mais qui est quand même un peu en lien, ce serait l'augmentation du nombre de jours où les températures, je cite, dépassent le seuil de tolérance humaine. C'est-à-dire qu'on a dépassé un peu ce qu'on appelle les canicules, où c'est fortement insupportable et voire meurtrier pour les plus fragiles. Donc là, on est au-delà, c'est-à-dire que le corps humain ne peut plus survivre à des températures pareilles. Bon, alors là, le rapport est implacable. Je le cite, le nombre de jours affichant une température dépassant le seuil de tolérance humaine devrait augmenter dans plusieurs grandes régions urbaines en expansion, notamment Amman, Aden et Bagdad, mais aussi dans des régions côtières comme au sud du Yémen, dans les pays de l'est de la Méditerranée, dans la côte sud de l'Iran ou la partie la plus au sud de l'Irak. La chaleur et la canicule, en plus d'être dangereuses pour la santé des plus fragiles, pourraient aussi nuire à la continuité des moyens de subsistance agricole. Donc c'est-à-dire qu'en plus de mourir de chaud, les gens vont mourir de faim suite à ça.
Tant qu'on peut encore organiser des coupes du monde, ça va.
Ouais, et des coupes du monde dans des stades climatisés.
Voilà.
Bon, et pas sûr que les gens qui vont fuir les températures dépassant le seuil de tolérance humaine aient de quoi se payer une place dans les tribunes pour se rafraîchir un petit coup. Comme solution, la Banque mondiale n'a pas de solution miracle, hein, on s'y attendait. Elle propose aux pays de réduire leurs gaz à effet de serre. Bon, jusque-là, rien de bien fou. Et comme bien évidemment, elle compte tirer son épingle du jeu comme organisation qui donne ou pas de l'argent à tel pays, elle compte sur un développement vert, résilient et inclusif. Magnifique, ces trois mots quand même. afin d'améliorer les conditions de vie là où les conditions de vie vont être et sont déjà en partie les plus terribles.
Alors on va maintenant écouter une petite musique. Et écoutez, aujourd'hui on a quand même décidé collégialement de vous faire écouter Soso Maness, puisque on a tous eu quand même une petite bouffée de bonheur en entendant le scandale du week-end, le moment où ce Soso Maness, invité à faire un concert à la fête de l'UMA, a réussi à faire chanter à une grosse partie de son public « Tout le monde déteste la police », en sachant bien sûr que tout ça se passe l'année où le Parti communiste a choisi pour candidat à la présidentielle le plus grand fan des flics qui soit jamais rentré au Parti communiste. Et là-dessus, Soso Maness arrive, fait chanter « Tout le monde déteste la police ». Ma foi, ça nous a fait plaisir, et là on va écouter une vraie chanson de lui, pas juste un slogan.
Ce qui a fait suite quand même juste après le coup du CCO, où on en avait parlé la semaine dernière, mais suite à une vidéo de promo où c'était « Tous les flics sont des bâtards ». Pareil, ça a créé un scandale international.
C'est ça, c'est que maintenant on dirait qu'il est plus possible d'arriver sur une scène d'une obscure salle, enfin plus ou moins obscure, parce qu'en l'occurrence la fête de l'UMA c'est pas si obscure, mais le CCO quand même un peu, de jouer du rock'n'roll et de dire « mort aux flics », ce qui est quand même, pourtant, on pourrait penser un peu la base du rock'n'roll. Bon voilà, Soso Maness, Zumba Caféo.
vient le mistral, vient le beau temps. J'ai franchi un cap, mais au fond de moi je suis pas content. Non, je suis pas content parce que c'est la même. L'ascenseur ne marche pas, ça pue la piste dans les HLM. Le temps passe, j'en ai trop perdu à essayer de courir tout droit dans un chemin tordu. Ça sent la CR dans la zone, tout le monde est tendu. Tu passes à défaut, qui s'en plaît, tu t'es pas rendu. Yo, jeune de thèse, j'ai fini tôt là. Pourtant j'étais futé, sur les plaques j'étais incollable.
À la fuite.
Dans le bloc ça crache des molars. Et ça porte les courses des darons qui passent avec le foulard. Ce que je rappe, moi je l'ai vécu. Le terrain, les problèmes, la mort et la guerre pour les écus. Le pactage arrivant, la brosse dans le rouleau PQ. Je le lisais en cellule, maintenant je fais des vidéos pour GQ. Dis-moi qui peut me dire dans les yeux son sentiment. Dis-moi quelle place j'ai donné un jour à un jugement. Dis-moi qui m'a mis la trique au beau métier et ses bâtiments. Et si je t'ai fait du mal, c'était pas injustement. J'en ai marre, je vois trop comme à la grille du mitard. Je me rappelle avec on rendait fou les motards. Et toutes ces soirées d'ivresse avec au bazar, ma première fois à la junk, y'avait, j'ai besoin de picoler, j'ai besoin de rigoler, parce que je vais prendre de l'essence et un jour m'immoler. Ma vie c'est une GS qui ne fait que caler, et je suis comme l'IGS, j'en ai rien à branler. L'impression d'être condamné, plongé dans le trou. On veut faire de la fast money, donc on paye le coup. Et si tu t'en mets plein le nez, c'est pas le mec tube. Donc sois un homme pour Dieu, le remets pas en doute. La pure de ma djinnina se transforme en ruine. Notre fée est imminente comme le règne d'Escobar. Je grandis près des criminels et du bruit des gyrophares. Sans cadence du cellophane dans un appart plein cafard. Et quand vient la noche, on part se capucher. J'ai les couilles à toto et la mentaloche. Je te parle de mon vécu sans passer à mocher. Quand les civils nous mettaient des crochets, un pétou dans la boca, une potion dans la main droite, posée devant le local. Check les cleans avec les mêmes watts. Et je viens d'acheter un toca, jamais servi dans sa boîte. Je monte au pic de l'étoile sous tes petites bouteilles de coca. Un peu solitaire et dans le paradoxe, comme niquer sans capote après un concert solidaire. J'ai fait le shit, j'ai fait la coque, midi minuit dans le bloc. Avis qui police bien plus pourri que dans Training Day. Et y'a des boîtes plus 4 dans le bloc qui vendent la cam. 80 euros le gramme, j'ai ton pack et une paille. Tu fais de l'argent halal, tu le casses puis dans le haram. Moi mon argent haram, je l'investis dans le halal. Oui mais c'est impossible, l'être humain est indécis. Ça plonge la tête première pour 10 millions dans le précipice. Ou 1 million dans le précipice, des pillages dans la piscine. Tout miser ici bas alors qu'on est juste en sursis. Je rappe avec humilité, mais ce que j'ai je l'ai mérité. Bosser en studio 40 degrés en plein été. Y'a plus d'argent dans le shit, crois-moi c'est la vérité. Y'a des patrons de terrain qui sont endettés. Tu peux imiter, on connaît la réalité. Dans ta parole, y'a peu de crédibilité. Je suis qu'un homme, mais au moins j'ai mes idées. C'est pour ça que j'ai refusé la série validée. Dans la zone, très peu sont loyales, plutôt impitoyables. 357 pitons et tout devient effroyable. Ici c'est le diable qui a vendu son âme. Daron nettoie le sang de son fils sur le macadam. À l'époque, y'avait des vrais hommes dans la zone. Y'avait pas de coq dans le bloc. Tu réglais tes comptes, maintenant c'est ton pote qui te loge. Une balle dans la tête, je fais pas la fête. Demi-tonne, semi-remorque à 7. Ma vie c'est un polar qui passe pas à la télé. Joker avec un cocard et deux ou trois côtes. La PAC Nord c'est des bâtards, ils se servent dans les scellés. Patron en 1000 RR, Salomon et Servette Millet. Que des moods malaïka, j'rappe tout seul à la rate. En fumette sous Jamaïca, en comico t'as fait la flaque. Arrête de me faire le trafiquant, 44 le prix des boîtes. J'dis merci au confinement. Sacoche sold out, sacoche sold out. Midi minuit dans la street. Pour les soldats, pour les soldats qui laisse pas d'empreinte sur les tuches. J'suis cloué au bitume, partir de là. Mec c'est trop dur, j'aime trop ma favela. Ça s'appelle fond vert plein et je viens de là. Renseigne-toi. À la barre, on n'est pas passé à table. Non. Et si t'attends le refrain, tu peux attendre, y'en a pas. J'vis à la pêche au gros, j'y mis mes couilles sur la part. Et si tu cherches des problèmes, y'a le peu pendant la barbe. Combien j'en ai baffé, combien j'ai gagné de trophées. J'rappe avec le cœur et sur ma vie j'ai jamais bluffé. Combien d'euros studio le soir t'as en train de taffer. J'ai trop bossé pour ça, me résume pas à Zumba Café.
Et voilà, c'était Soso Maness, Zumba Caféo.
Et on va aller faire un tour du côté d'Israël.
Voilà, où l'association israélienne des droits civiques a reçu une lettre de l'autorité de la population, de l'immigration et des frontières, donc une instance gouvernementale, qui explique que la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, qui appartient au parti nationaliste Yamina, vient de lui ordonner d'ignorer qu'une loi anti-arabe n'existait plus. Il y a beaucoup de doubles négations. Mais
oui, c'est aussi en train d'essayer de les remettre dans le...
Pour comprendre, en fait, en juillet dernier, il y a eu l'abolition d'une loi par le Parlement, d'une loi qui favorisait la réunification familiale entre Palestiniens ayant la nationalité israélienne et ceux vivant dans les territoires occupés, qui permettait notamment donc à des conjoints d'acquérir la nationalité israélienne après mariage avec un arabe israélien. Donc c'était une loi plutôt pro-arabe et pro-rapprochement des peuples, quoi. Qui, voilà. Enfin, c'était une loi qui empêchait ça. Voilà, pardon.
Décidément,
qui empêchait ça, voilà. Moi aussi, j'étais perturbée par les doubles négations. Donc, qui empêchait ça et qui a été abolie. Donc, mécontente de son abolition, la ministre de l'Intérieur, Shaked, a donc décidé que son administration n'examinerait plus aucun dossier touchant à ce problème en attendant qu'une autre politique, voire une nouvelle loi anti-arabe, soit mise en place. Bref, légal ou non, donc l'apartheid est toujours là. Et s'il n'y a pas de loi, on les met en place. Enfin, on fait comme si elles existaient quand même. Alors à Gaza, c'est pareil. Le gouvernement israélien fait semblant d'être généreux. Alors même que Gaza est bombardé quasiment quotidiennement par l'aviation israélienne, le chef de la diplomatie d'Israël, Yair Lapid, a présenté dimanche un projet censé améliorer les conditions de vie de la population dans l'enclave palestinienne. Gaza, qui est quand même plutôt une prison à ciel ouvert, est soumise à un blocus israélien depuis plus de 15 ans. Donc là, tout d'un coup, on leur propose du développement qui viendrait d'Israël. L'initiative dénommée « L'économie en échange de la sécurité », tout un programme, propose de réparer les installations électriques, de connecter du gaz, de construire une usine de dessalement de l'eau, puis d'établir un lien routier entre l'enclave et la Cisjordanie occupée, voire même d'y construire un port. Mais pas question de demander leur avis aux Gazaouis, de discuter avec le Hamas et encore moins de reconnaître des droits nationaux aux Palestiniens. Et alors, le retour de bâton, en cas d'acte hostile à l'égard d'Israël, tout cela pourrait à nouveau être détruit. Un plan de développement qui n'a donc aucune chance de voir le jour et qui est une simple opération de communication, surtout destinée à l'opinion internationale, pour montrer la bonne volonté d'Israël. Et puis, c'est un peu gros pour être crédible.
Canu Info.
Et on va parler de la nouvelle campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, c'est ça ?
Alors, pas directement, mais enfin, effectivement, on pourrait se dire que ce n'est pas complètement sans rapport. Dans un exercice mêlant autosatisfaction et soutien ardent aux forces de l'ordre, oui, décidément, direct, t'as raison, le président de la République, ah ben oui, c'est ça, a promis des décisions radicales dont la teneur concrète, par contre, se fait un peu attendre. Tout y est, la sécurité affaire de tous et première des libertés, la nation qui fait bloc derrière les policiers et les gendarmes, les solutions nouvelles pour bâtir la vie tranquille. En visite à l'école de police de Roubaix hier, Emmanuel Macron a clôturé le Beauvau de la sécurité en empilant les classiques du genre. Féliciter les forces de l'ordre pour leur engagement sans faille, saluer les efforts sans précédent réalisés sous son quinquennat pour garantir la sécurité au quotidien, se réjouir des moyens inégalés et des réformes inédites. C'est quoi le Beauvau de la sécurité ? Vous allez me dire... Non, vous n'allez pas forcément me dire ça, mais peut-être quand même qu'à l'antenne, il y en a quelques-unes ou quelques-uns qui se rappellent pas de cette histoire. Et donc, le rattrapage des épisodes, c'est que fin 2020, il s'était passé un truc un petit peu incroyable. D'abord, Michel Zecler, un producteur de musique noire, s'est fait tabasser par des flics, insultes racistes, tout ça, pour rien, pour que dalle, et devant des caméras. Vous allez me dire, je vous avais promis un truc incroyable, jusque-là, c'est pas si incroyable que ça. Non, ce qui est incroyable, c'est que après que cette histoire ait fait un sacré buzz, le président de la République lui-même avait, au cours d'un discours, admis, mais alors vraiment du bout des lèvres, que oui, parfois, ça pouvait arriver que certains flics puissent, à des moments, être racistes et que ça puisse se ressentir dans leur boulot. Ni lui, ni aucun de ses ministres ne nous avait habitués à ça. Mais le temps que nous, on s'étonne, le temps qu'on comprenne les phrases qu'il avait dites, les flics, eux, avaient déjà repris les choses en main. grosse protestation, grosse manif de flics énervés, alors, complètement illégal à 1000 points de vue ces manifs, mais bon, c'est des flics alors c'est pas grave. Quoi, on veut nous interdire d'être racistes, déjà qu'il y a quelques mois on voulait nous interdire de tuer des gens, comment vous voulez qu'on travaille dans des conditions pareilles, etc., etc. Alors pour se faire pardonner, Macron et Darmanin avaient lancé une grande consultation nationale pour restaurer la confiance fragilisée entre une partie de nos citoyens. Alors eux, ils disent pas concitoyens, ils disent nos citoyens parce qu'ils sont propriétaires. Et ceux qui les protègent.
J'ai cru que tu allais dire parce qu'ils sont pas cons. Mais...
Non, j'ai pas dit ça. Et ainsi... accorder immédiatement des gros crédits d'armement, de bagnoles, de réflexion de locaux, tout ça, ils avaient lâché de la thune directe. Oups, pardon, on a dit que peut-être des fois il y avait des racistes. Attendez, on vous lâche des millions.
D'ailleurs, vous pouvez le voir, pardon, mais vous pouvez le voir parce que maintenant, ils ont des toutes nouvelles voitures qui circulent dans la ville.
Et attendez, c'est pas fini, vous allez voir. Celles-là, elles sont là, mais elles vont pas durer longtemps, elles vont partir à la casse, après ils en auront des encore mieux.
Wow.
Et donc hier, le président est venu clôturer cette grande et longue et belle consultation dont le débat n'est en aucune manière, comme on va le voir, de remettre quoi que ce soit en cause du côté du racisme ou de la violence en roue libre des flics. C'est le discours de Macron et ses annonces que nous raconte un article de Mediapart dont je me sers pour faire cette info. Donc une heure durant, le chef de l'État s'est félicité des décisions prises par son gouvernement depuis 2017. 10 000 postes de policiers créés, des investissements immobiliers, des voitures neuves, on en parlait à l'instant. La lutte sans relâche contre les fléaux des temps présents, drogue, cybercriminalité, cambriolage, immigration clandestine. Bien sûr, l'immigration est un problème au même titre que la drogue ou la criminalité. Mais comme ce séminaire était là pour parler de problèmes, Macron n'hésite pas à les nommer. Hein, racisme, faux procès-verbaux, falsification de transcription d'interrogatoire, c'est ça les problèmes dont Macron a parlé. Eh ben non, pas de problème. Macron parle des autres problèmes, la violence latente, les groupes qui, dans certains quartiers, cherchent à imposer leurs règles. Vous voyez, quand je fais des petits changements de voix, c'est pour vous éviter de dire guillemets à chaque fois, mais c'est les citations. L'augmentation des violences familiales, une transition toute trouvée vers ce que Macron appelle les décisions profondes, peut-être radicales, vous voyez, il a de l'allant, qu'il faut encore prendre. Ni bricolage, ni gadget miracle, le président promet une stratégie complète, inspirée de vos travaux, dit-il aux flics, pour améliorer la vie de nos compatriotes. Alors non, pas les compatriotes, en vrai, pour améliorer la vie des flics, comme vous allez voir, les compatriotes, eux, ma foi, ils continuent à se prendre des coups de matraque dans la gueule. Comme prévu depuis le début du Beauvau, Emmanuel Macron a confirmé qu'une loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure passerait en Conseil des ministres début 2022. Il s'agit, a-t-il expliqué, de penser la police et la gendarmerie de 2030. Donc c'est une vision à long terme. Alors bien sûr, rien, pas un seul mot pour les dérives policières, pas la moindre évocation des victimes, les personnes décédées lors d'opérations de police, les manifestants amputés d'une main ou éborgnés, toutes ces choses-là. Bien au contraire, les personnes qu'il faut protéger, c'est qui ? C'est les flics. Les forces de l'ordre, ces policiers qui doivent faire face à des phénomènes nouveaux, black bloc, gilets jaunes et manifestations sporadiques. Le président préfère dénoncer ce fracas dans lequel le débat médiatique nous enferme, qui en vient à affaiblir la confiance légitime, donc celle qu'on devrait avoir dans les flics. Nous n'avons rien à craindre, dit-il, d'une transparence accrue. Alors, bien sûr, là, c'est moi qui ajoute, c'est pas dans l'article, mais pour des gens qui ont rien à craindre d'une transparence accrue, on sait pas pourquoi est-ce qu'ils ont tellement insisté pour essayer de mettre dans une loi un truc qui interdit de filmer les flics quand ils sont en train de bosser, et pourquoi est-ce qu'une fois que ça a été retoqué, là, ils sont en train de se préparer à nous le repasser dans une autre loi. Mais c'est sûr que la transparence, ils ont rien à craindre, non, c'est... Bon, je sais pas, juste, ils aiment pas les caméras, ils sont contre les écrans. Un des enjeux, une promesse de ce Beauvau, c'était la réforme des organes de contrôle de la police et de la gendarmerie. Vous voyez, l'IGPN et l'IGGN, c'est-à-dire la police des polices. Alors, beaucoup de monde, beaucoup d'observateurs, dans les gens qui se penchent un peu sur les institutions de la République, parlent, en tout cas depuis 2020, ça a été énormément discuté, du besoin d'avoir un truc indépendant qui puisse enquêter sur les actions des flics. C'est-à-dire que l'IGPN, c'est des flics qui enquêtent sur les flics. L'IGGN, c'est des gendarmes qui enquêtent sur les gendarmes, c'est-à-dire qu'ils enquêtent sur leurs collègues. Il y a l'esprit de corps, il y a toutes ces espèces de traditions de solidarité à l'intérieur de la boîte. Tout ça joue un petit peu quand même dans la manière dont se passent les enquêtes. Et donc, il y a un peu cette espèce de discours de fond, mais alors pas chez tout le monde, hein, et pas du tout dans les ministères, du besoin que les enquêtes sur les éventuelles bavures soient faites par d'autres gens que des flics. Comme on pouvait s'y attendre, c'est, ma foi, complètement évacué. Une inspection générale, nous dit le président, n'est pas une autorité administrative indépendante. Donc, puisque là, ça s'appelle inspection générale de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ça n'a pas à être indépendant. Non, juste non. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça pourrait, hein. Il y a des tonnes d'autres pays où ça se passe comme ça. Mais là, non. Ça se passe pas comme ça. Pourquoi ? Bah, parce que ça se passe pas comme ça. C'est vraiment ça le niveau d'argumentation. Je pense que les inspections doivent avoir un statut à part. Mais elles doivent être un instrument pour les directeurs et directrices et pour les ministres pour œuvrer. Qu'est-ce que ça dit ? Bah, il faut être constructif et embêter les flics, c'est pas constructif. Donc ces organes de contrôle restent essentiellement constitués, après ce discours d'hier, vont rester essentiellement constitués de policiers et de gendarmes et continueront donc à dépendre directement du ministère de l'Intérieur. Alors on se rappelle que dans de nombreuses affaires, les enquêtes menées par l'IGPN ou l'IGGN ont été entachées d'erreurs qui bénéficient toujours aux policiers ou aux gendarmes incriminés. Donc en gage de transparence, le président annonce que leurs rapports seront désormais rendus publics. Sans apporter davantage de précision. Alors, ma foi, c'est sympa, mais en fait, c'est déjà le cas depuis plusieurs années, puisque l'IGPN et l'IGGN donnent des bilans annuels d'activité. Et ma foi, ça ne sert pas à grand-chose, ça sert parfois à rire un peu, bon, amèrement, quand l'IGPN conclut, par exemple, vous vous rappelez de cette histoire, qu'on ne peut pas faire de lien entre la charge des flics le soir de la fête de la musique à Nantes et la mort de Steve Maya Canisso. L'IGPN avait conclu que on pouvait pas faire de lien. Alors, c'est rendu public, pas de problème. C'est dit sans aucune honte. C'est aussi vraisemblable qu'un discours anti-vax. Et bon, ça change quand même rien du tout. Emmanuel Macron exige également que les directeurs, censés prendre une décision après proposition de sanctions et des inspections, le fassent. Là encore, les policiers poursuivis pour des fautes sont généralement par ces directeurs, généralement épargnés et parfois même promus par leur hiérarchie. Ou leur ministre, hein, parce que là, le nombre tous les flics qui ont eu des embrouilles, en particulier pendant le mouvement des Gilets jaunes, un peu avant, un peu après, qui ont été convoqués par l'IGPN pour voir s'ils avaient quand même pas un peu exagéré sur bastonner des gens, ou tous les flics dans les affaires dont on a entendu parler, c'est-à-dire le commissaire qui avait ordonné cette charge qui a pas provoquer la mort de Steve Maya Canisso, ou les flics qui ont potentiellement tué Zineb Redouane, tous ces flics ont été médaillés entre-temps. J'en étais où, moi ? Ah oui, voilà. La seule nouveauté, c'est la création d'une instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre. Ça veut dire ça que, d'une manière ou d'une autre, mais alors on ne sait pas bien comment, l'Assemblée nationale et le Sénat vont pouvoir contrôler les forces de l'ordre. Je proposerai, dit Macron, au président des chambres parlementaires, sur le modèle de la délégation parlementaire au renseignement, de créer une instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre qui pourra procéder à l'évaluation de leur action. Bon, pour l'instant, ça reste, comme qui dirait, assez flou. Si moi, par exemple, j'étais un raciste violent et flic, par exemple, si je m'éclatais à fond dans mon boulot, là, tout de suite, je ne serais pas hyper inquiet par cette espèce d'annonce de « oui, on pourra créer, blablabla bla, ». Peut-être, un jour, on ne sait pas quoi. Alors, autrement, en matière d'investigation, un des serpents de mer les plus coriaces, c'est la simplification de la procédure pénale. Les flics ont trop de paperasserie à faire, ça les déprime. Depuis des temps immémoriaux, les professionnels de la police et de la justice appellent cette simplification de leurs vœux, et les responsables politiques, généralement les uns après les autres, ils promettent de simplifier. En fait, ce qui se produit, c'est tout le temps l'inverse. À force de modifications législatives, la procédure pénale est de plus en plus compliquée, au point que plus personne ne sait comment elle pourrait être simplifiée. Multiplication des procès-verbaux, procédure hors d'âge. Dans son discours, le chef de l'État a fustigé ces piles de papiers qui nécessitent un temps excessif de traitement. Mes pauvres petits flics, vous avez trop de rapports à faire. C'est vraiment trop difficile pour vous. Symptôme d'une impuissance, dit-il. Et donc complexité de la procédure pénale qu'il désigne comme l'ennemi commun de nos forces de sécurité et de nos magistrats. Pendant ce temps, ajoute le président, parce que ça vaut toujours le coup d'avoir un bon petit discours comme ça, les délinquants jouent de nos lourdeurs et avancent, vu qu'eux, ils n'ont pas de paperasserie à remplir.
Ah.
Et ça, ça leur donne toujours une
force. Qu'est-ce qu'il en sait ?
C'est ça, qu'est-ce qu'il en sait ? Tout à fait. Là aussi, Emmanuel Macron vante le travail accompli sous son quinquennat, donc il a déjà accompli pour alléger la charge de... et donc là, qu'est-ce qu'il a fait ? La suppression des rappels à la loi, c'est pas encore fait, mais c'est en cours d'examen. Et ça, en réalité, ça permet d'envoyer plutôt les gens se faire juger plutôt que se faire moitié juger. La procédure pénale numérique, l'extension du champ de l'amende forfaitaire délictuelle. Et ça, par exemple, à partir du mois d'octobre prochain, deux nouvelles amendes forfaitaires seront créées pour occupation illicite de terrains et de halls d'immeubles. Et ça va rentrer en vigueur. Ça veut dire que juste, vous êtes avec vos potes dans un hall d'immeuble et vous traînez en fumant une clope. Bon, bah maintenant, au moins, on sera plus obligé de se poser la question, il avait le droit, il n'avait pas le droit, comment, qu'il y ait un juge qui vienne, hein, le flic, il passe, il vous aligne, bim, vous avez une amende. Comme ça, on n'en parle plus et ça ne traîne pas.
Typiquement, vous êtes là, les flics viennent vous contrôler, vous leur dites non mais là vous nous faites chier, ça fait 5 fois que vous nous contrôlez, vous haussez un tout petit peu le ton, ils ont les moyens de vous mettre une amende pour vous faire fermer votre gueule.
C'est ça, et si ça fait 5 fois, ils ont les moyens de vous l'avoir mise déjà 5 fois, enfin...
Et historiquement, ce truc de squattage de hall d'immeuble, on se rappelle que c'est quand même sous Sarkozy qui nous avait pondu ce truc de rendre illégal l'occupation des halls d'immeubles.
Alors peut-être qu'il était plutôt ministre de l'Intérieur, mais c'est sous Chirac, parce que ça fait partie de l'arsenal de loi après le 11 septembre 2001. Pour lutter contre le terrorisme, il y avait eu cette grande réforme de rendre illégal le fait de squatter les halls d'immeubles.
Toutes ces bombes posées dans les halls d'immeubles.
Ouais. Non, toutes ces bombes planifiées dans les halls d'immeubles. Tu sais, c'est là que se réunit Al-Qaïda pour aller poser des bombes.
Quand on parle de halls d'immeubles, par exemple, pour Lyon, ça concerne a priori pas les logements du 6e arrondissement.
Vous voyez peut-être que le docteur Michu se rencontre avec maître de la Plantière. Et éventuellement, si eux, ils papotent 5 minutes dans le hall d'immeuble, c'est vrai qu'il y a peu de chances qu'ils risquent l'amende ou les différentes embrouilles administratives ou judiciaires. C'est vrai. J'en étais où, moi ? Ah ouais. Désireux de poursuivre sur la voie du pragmatisme, le président demande au garde des Sceaux, c'est-à-dire au ministre de la Justice, de déposer sous 3 mois d'autres mesures de simplification de la procédure pénale. Bon, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'est pas arrivé à grand-chose, mais il a dit « Non, mais vous en faites pas, je vais demander à Dupond-Moretti, je vais dire « Allez, vas-y, simplifie, mon bonhomme, simplifie. » Et ça tombe bien, puisque les états généraux de la justice doivent débuter d'ici quelques semaines.
Ah.
Et alors, eux aussi, il va falloir qu'ils fassent de la simplification drastique des cadres d'enquête. Ouais. Après quoi, police et gendarmerie doivent prendre le virage du service rendu aux citoyens. Eh, ça a l'air bien. Hein. C'est encore ce que Macron a dit. Faisant sienne les exigences exprimées, selon lui, par la population. Macron, il sait ce que veut la population. Comme l'intégralité de ses prédécesseurs, Macron a promis de mettre plus de bleus sur le terrain. Quand on dit bleu, ça ne veut pas dire des petits nouveaux, ça veut juste dire des flics en uniforme. La présence policière est envisagée comme un facteur dissuasif pour les délinquants et rassurant pour le commun des mortels. Moi, je suis hyper rassuré quand je croise des flics. Non, c'est pas vrai.
Surtout dans le train, non ?
Oh putain, arrête ! Arrête, ça va encore m'arriver ce soir. Objectif, doubler tous les 10 ans la présence de policiers et gendarmes sur la voie publique. Doubler tous les 10 ans. Vous connaissez l'histoire du jeu d'échecs où on met un grain de riz sur la première case, tout ça. Bon, on ne sait pas jusqu'à quand il va falloir doubler tous les 10 ans, mais à un moment, ça va faire une grosse partie de la population française.
Dans 100 ans, combien y aura-t-il de flics sur la voie publique ?
Et de son côté, Anne Hidalgo a promis de doubler le salaire des profs tous les 4 ans.
Ah
voilà.
Okay,
parce que là tout le monde est dans le qui tout double.
En même temps, justement, si Anne Hidalgo promet ça et qu'elle arrive présidente, par rapport à Macron, ça, tous les 4 ans, ça fait un tout petit peu moins que son mandat. Et ça, c'est pas rien, parce que Macron, quand il dit 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y aura rien à foutre. Hein, parce que même si jamais il se faisait réélire, il a le droit d'être président que 2 fois. Autant dire que, avant que ça soit déjà la première fois 10 ans, il ne sera plus là. Et qu'on peut juste espérer un peu que ses successeurs trouvent que ça va quand même vraiment coûter du pognon d'avoir autant de flics.
Lui-même doit déjà le penser, mais on n'en a rien à foutre.
Oui, c'est que lui, il le pense certainement aussi, mais il se dit, c'est pas grave, c'est des promesses que les autres devront tenir. Le président aussi a annoncé une augmentation de 1,5 milliard... d'euros du budget de l'intérieur en 2022, 1,5 milliard, dont un tiers pour mettre en œuvre des mesures décidées lors du Beauvau de la sécurité. c'est-à-dire 500 millions, sur les 900 qui étaient déjà annoncés par le Premier ministre cet été. Alors, après les voitures et les locaux, tout ce qui fait le quotidien des policiers sera amélioré, parce que bien souvent, ce qui avait été le parent pauvre, c'était cela, les conditions de travail, les voitures, la situation des bâtiments, tout ce qui faisait le quotidien. Là, c'était encore une citation. Jusqu'à la tenue, un prototype de polo modernisé et calo qui remplacera la casquette et qui sera donc produite dès le premier semestre 2022. Vous aurez des flics de beaux, magnifiques, pimpants dans leur nouvelle tenue.
Ah, on leur enlève leur casquette. Hein, parce que moi, ça m'énervait un peu qu'ils aient des casquettes.
Oui. Là, ils auront un calot.
Ça va continuer.
Et après ça, il y a encore des gens pour dire tout le monde déteste la police. Mais c'est un scandale.
C'est ça. Mais non, mais attends. Les gens, ils le diront moins quand ils auront leur nouvelle tenue. Et Macron l'a précisé, c'est une question de fierté, de respect.
Et est-ce qu'avec le calot, ils auront le retour de la 405 sérigraphie ?
Alors, ils n'en parlent pas ici.
Parce que moi, je trouve ça
mais,
pas mal.
Mais ma foi, c'est ça, c'est que sur ce 1,5 milliard, il y a quand même de quoi acheter encore des nouvelles bagnoles.
Le flic vintage, un peu.
Mais pas que des nouvelles bagnoles. Attends, parce qu'ils vont aussi pouvoir, comme ils vont être très beaux, ils vont pouvoir se filmer, mais en fait, ils vont filmer les autres aussi. Et il a annoncé que 15 000 caméras piétons viendraient très bientôt s'ajouter aux 15 000 qui sont déjà déployées, une par patrouille. Nous n'avons rien à perdre avec la transparence en permanence, a dit Macron. D'ici fin 2022, chaque fonctionnaire sera doté d'une caméra individuelle. Alors par contre, on le sait déjà, parce qu'il y a déjà des caméras dans plein d'endroits où il peut y avoir des flics, et que ça se passe quand même absolument toujours comme ça. On le sait déjà, à chaque fois qu'une plainte sera déposée contre un flic qui porte une caméra, que la plainte sera sur un moment où cette caméra est censée être en route, et bien à chaque fois, la caméra sera malheureusement défectueuse pile poil à ce moment-là.
Et on va continuer sur une autre blague, si j'ai bien compris.
Oui, voilà, une blague un peu plus légère. Et alors, c'était ce week-end, si vous êtes lyonnais ou lyonnaise et que vous vous êtes baladé dans l'Ouest, plus particulièrement à Sainte-Foy-lès-Lyon, vous avez peut-être pu assister à l'émergence d'un nouveau bastion de la lutte écologique et sociale, la ZAD du Vallon.
Ouais.
Ce samedi, donc, les Fidésiens sont sur leur rond-point, aussi absurdement déterminés qu'une armée d'antivax. Ne vous enflammez pas, tout ce qui se passe à l'ouest de Lyon ne s'appelle pas Notre-Dame-des-Landes. Et pour l'instant, ce qui ressort d'un savoureux article de Rue 89 n'a en fait pas grand-chose à voir avec ce que vous pensez qu'est une zone à défendre. Alors, l'un des zadistes explique aux journalistes cette envergure modeste. Je cite « On a un travail, c'est difficile d'occuper les lieux en permanence ». Donc, pour l'instant, c'était surtout un samedi après-midi.
Et voilà, c'est mort pour la ZAD.
Et pas le dimanche, puisqu'on va à la messe.
Voilà. Le projet en question, d'abord, donc, puisqu'une ZAD, c'est quand même souvent lié à une protestation et donc à un projet. Donc le projet en question, c'est un téléphérique reliant le centre de Lyon à Francheville en passant par Sainte-Foy, un projet porté par la métropole et fustigé par les maires de droite des communes concernées. Un projet qui ressemble surtout, vu de loin, donc je vous avoue que c'est pas vu de très près, hein, donc à un transport en commun bienvenu dans une zone uniquement desservie par des bus et où la moyenne des voitures par habitant est certainement supérieure à 1. Alors, zadiste amateur, zadiste amatrice peut-être, mais déterminé, nous dit encore Rue 89, je cite très rapidement les prises de parole fusent autour du projet du téléphérique. Et là, c'est les manifestants, manifestantes qui parlent, inutile, farfelu, onéreux, destructeur d'environnement. Pour ces habitants et habitantes travaillant dans des communes difficiles d'accès en transport en commun, l'intérêt du transport par câble vers Lyon est quasi nul. Ils circulent tous en voiture ou à vélo électrique et le téléphérique ne changera pas leur vie. Quant à savoir s'il améliorera celle des rares habitants modestes et sans voiture de la zone, contraints de se rendre à Lyon pour travailler, ça, ce n'est pas leur problème. Je cite une manifestante, on ne se cache pas, nous défendons aussi nos intérêts individuels, le prix de nos maisons et notre cadre de vie. C'est Florence Goura, une habitante de Sainte-Foy. Mais si c'était un projet d'intérêt général, nous ne nous positionnerions pas dessus. Le problème, c'est que ça n'est pas le cas. Alors qu'est-ce que ça peut bien être un projet de transport en commun si c'est pas un projet d'intérêt général, on se demande. Pour eux, donc, le projet ne répond pas aux enjeux du transport de masse. Tous défendent le projet de métro E, qui est mis en pause par l'actuel exécutif. plus grand permettant de transporter plus de monde, ce dernier leur paraît plus adapté à une vision de long terme. Et puis surtout, ce projet de métro qu'il et elle préfèrent doit relier Lyon à Tassin en ne passant pas par Sainte-Foy. Et surtout, et oui, et surtout, eh ben, il est souterrain.
Ce qui empêche du coup qu'on voit les Fidésiens et Fidésiennes se baigner tout nus dans leur piscine.
J'y arrive, puisque, je cite, « le téléphérique va totalement saccager la commune », s'inquiète Sandrine Fernandez, une habitante du collectif. Sur la carte, les habitants pointent le passage des pylônes par le parc du Brulé. Si ce tracé est choisi, il pourra toucher plusieurs points de ce poumon vert de l'ouest lyonnais, qui est un peu notre Amazonie à nous, hein, lyonnais.
Ah, et puis, surtout, une fois que ça sera traversé par un téléphérique, c'est clair que le poumon vert, il est niqué, quoi.
Ah oui, complètement. Bah, un pylône et tout est dévasté. Ouais.
Et oui.
Ce cadre de vie vert, on l'a payé, s'énerve Frédéric Goura. Si on nous le casse, on partira. Rue 89 précise, alors bon finalement, hein, en fait on est peut-être avec eux aussi sur ce coup-là. Rue 89 précise, à ceci s'ajoutent des problématiques de bruit, de pollution visuelle et même d'intimité, j'y viens. Pensant aux propriétaires de piscines comme aux habitants de logements sociaux de la Gravière, tous craignent d'être vus du haut des câbles. Alors a priori, même si vous ne savez pas à quoi ressemblent les logements sociaux de la Gravière, vous pensez plutôt que ce sont les propriétaires de piscines qui se sentent concernés. Alors, né d'une assemblée générale de copropriétaires, lieu notoire de naissance de ZAD, le collectif ne rassemble qu'une vingtaine de personnes pour l'instant. Proche de « Touche pas à mon ciel », le mouvement pourrait prendre de l'ampleur, selon eux. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, vous l'aurez deviné, de ne surtout pas toucher à ce précieux ciel de la banlieue lyonnaise, la campagne presque, où polluer est un droit, se déplacer en transport en commun une aberration, et faire baisser le prix de l'immobilier, un crime. Alors, des transports, pourquoi pas, mais ailleurs. Aujourd'hui, si vous cherchez des cabanes, de la bouffe végane, des bières, des discussions sympas, des ateliers plantes sauvages, ben vous risquez un peu d'être déçu en trouvant un drapeau qui est intitulé « Non » sur un rond-point. voilà, peut-être samedi prochain, ça sera différent. La concertation doit commencer... Oui, il y a une concertation publique hein, pour ce projet qui doit commencer mi-novembre. Nul doute que la ZAD du Vallon saura s'étoffer d'ici là et devenir l'emblème d'une lutte de citoyens et citoyennes éclairés, profondément investis du souci écologique et prêts à, je cite encore, « s'accrocher à un arbre en guise de protestation », pour citer l'une des participantes. Et on se retrouve la semaine prochaine, et puis c'est Idées Noires juste après nous.
Merci de nous avoir écoutés. Et on va finir par notre super générique de fin.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.